Bonjour, je suis Vincenzo Genovese, journaliste à Bruxelles, d'où je suis l'actualité européenne.
Bonjour, moi c'est Hermine Dansé, également journaliste à Bruxelles.
Le sujet d'aujourd'hui est depuis longtemps une pierre d'achoppement pour l'Union européenne, la réforme de ses traités fondateurs. Les traités sont comme les manuels d'un jeu des sociétés. Ils fixent les règles que les joueurs doivent suivre. Les modifier revient donc à changer les règles du jeu. Cela se produit généralement parce que certains joueurs n'aiment plus ces règles et ou parce que les règles existantes sont imparfaites. Et nous sommes arrivés exactement dans ce point-là.
Dans une résolution adoptée le 22 novembre dernier, le Parlement européen a demandé que des changements substantiels soient apportés aux deux traités fondamentaux sur lesquels repose l'Union européenne. Le traité sur l'Union européenne contient les dispositions générales sur ce qu'est l'Union, ses valeurs, tandis que le traité sur le fonctionnement de l'Union contient des dispositions spécifiques sur les institutions et les politiques de l'Union.
L'objectif premier de cette révision est d'améliorer l'intégration entre les États membres, de renforcer l'Union et de permettre à ses citoyens d'avoir davantage voix au chapitre sur des questions cruciales. Une grande partie du contenu de la résolution s'inspire de la conférence sur l'avenir de l'Europe, une expérience de démocratie participative qui s'est déroulée de 2021 à 2022 et à laquelle ont participé 800 personnes choisies au hasard dans l'ensemble de l'Union européenne.
Au sein de l'Union européenne, le nombre de votes nécessaires à l'adoption d'un texte de loi varie en fonction du sujet traité et de l'institution. Plus spécifiquement, les États membres au sein du Conseil votent soit à la majorité généralement qualifiée, soit à l'unanimité. Pour atteindre la majorité qualifiée, il faut que s'applique la règle de la double majorité, c'est-à-dire que premièrement 55% des États membres soutiennent la proposition, donc en pratique c'est 15 sur 27 pays, et deuxièmement ces pays doivent représenter un total d'au moins 65% de la population totale de l'UE.
Cependant, en ce jour, les décisions sur les domaines politiques les plus sensibles doivent être prises par consensus. Ce qui signifie que n'importe lequel des 27 États membres peut s'opposer et donc bloquer les choix de tous les autres. Dans ce cas de figure, il faut donc faire des compromis pour obtenir l'adhésion de tous.
La règle de l'unanimité avec son droit de veto s'applique dans de nombreux domaines, notamment la politique étrangère, la politique fiscale ou encore le sujet de l'adhésion de nouveaux pays. En fait, ce blocage du veto s'est produit à plusieurs reprises déjà dans l'histoire de l'Union européenne et la dernière fois lors du sommet européen de décembre 2023, lorsque le Premier ministre hongrois Viktor Orban a refusé d'accepter une révision du budget à long terme de l'UE, y compris une enveloppe de 5 milliards d'euros pour l'Ukraine, obligeant les autres dirigeants à reporter la question à l'année prochaine.
J'ai rencontré Daniel Freund, un eurodéputé allemand, membre du groupe des Verts et un des membres du Parlement européen à l'origine de la résolution en faveur de la modification du traité. Je l'ai rencontré au Parlement à Strasbourg avant les vacances d'hiver, lors d'une session plénière très chargée. Daniel Freund, quelles sont les conséquences du système de vote actuel sur le fonctionnement de l'UE, notamment en matière de sécurité ?
Peut-être que du point de vue de Vladimir Poutine, depuis qu'il a envahi l'Ukraine, il a intérêt à ce que l'Union européenne ne fasse rien. Un seul des 27 chefs d'État suffit pour bloquer toute l'Union et pour que nous n'exprimions même pas un avis sur les crimes de guerre commis en Ukraine. Cette unanimité est donc une menace pour la sécurité de l'Union européenne, car il est possible de corrompre, de faire chanter, d'influencer une seule personne dans la salle pour que nous ne puissions plus décider, plus agir. C'est quelque chose qu'il nous faut, vraiment, changer.
C'est pourquoi le Parlement européen souhaite élargir les domaines dans lesquels les décisions peuvent être prises à la majorité qualifiée. En outre, une réforme des traités permettrait au PE de contribuer à la prise de décision sur le montant de la contribution des États membres au budget de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est exclusivement aux gouvernements nationaux de décider. Ils doivent tous se mettre d'accord, c'est-à-dire à l'unanimité à nouveau, sur le montant à verser dans les coffres de l'UE.
Si vous comparez cette situation avec les États-Unis ou l'Allemagne, si nous en Allemagne établissions le budget national par un vote unanime des premiers ministres des 16 États fédéraux et de l'Allemagne, le budget national serait un véritable gâchis. Et il est évident que ce n'est pas ainsi que nous, les Allemands, procédons.
Un autre objectif de la réforme proposée par le Parlement européen est de transformer l'architecture de l'Union européenne en un système bicaméral. La comparaison avec le fonctionnement d'un pays est bien sûr un peu forcée, mais pour simplifier, on peut dire que l'UE dispose actuellement d'une sorte de gouvernement composé de la Commission, d'un Parlement dont les représentants sont élus au suffrage direct et d'un Conseil représentant chacun des États membres. Selon la répartition actuelle des pouvoirs entre les institutions, le Parlement n'a pas les droits d'initiative législative, ce qui signifie que, contrairement aux parlements nationaux, il n'a pas les droits de proposer de nouvelles lois. Le Conseil, quant à lui, a les pouvoirs de bloquer toute législation proposée par la Commission européenne.
Il existe aujourd'hui une sorte de droit d'initiative législative caché que les députés européens veulent transformer en véritable droit d'initiative. Écoutons Éric Maurice, ancien directeur du bureau bruxellois de la Fondation Robert Schuman, dans une interview réalisée par nos confrères du média belge RTBF, membre du réseau Euranet+.
Il y a un entre-deux en ce moment, c'est-à-dire si une résolution du Parlement passe à la majorité de ses membres, la Commission s'engage à proposer ce que demande le Parlement. Donc ce n'est pas un droit d'initiative officiel. Ça dépend de la réforme des traités, qui dépend des États membres. Donc, évidemment, les députés le réclament, mais ce n'est pas pour tout de suite, parce que ça implique, c'est le fameux débat sur la réforme de l'Union européenne et la réouverture des traités, et ce débat-là n'est pas prêt d'être tranché.
Ce changement, ainsi que la modification du mécanisme de vote au sein du Conseil, priverait les gouvernements nationaux de certaines de leurs compétences, de leur pouvoir d'action.
En ce qui concerne la Commission européenne, un changement majeur reste également prévu dans les modes de désignation de son président. Actuellement, les gouvernements nationaux choisissent les personnes qui leur conviennent et le Parlement doit l'approuver, un processus que les eurodéputés souhaiteraient inverser. Et ce ne serait pas la seule innovation. Daniel Freund, quel changement le Parlement européen envisage-t-il pour la nomination de la Commission à Bruxelles ?
Aujourd'hui, la Commission est nommée par les gouvernements des États membres. Chaque pays envoie donc un commissaire. Mais encore une fois, en Allemagne, le gouvernement n'est pas composé d'un représentant de chaque État, ou en France, le gouvernement n'est pas composé d'un représentant de chaque région. Mais le gouvernement est formé par une coalition. Les personnes les plus compétentes sont généralement nommées au gouvernement, et nous voulons qu'il en soit de même à la Commission européenne.
La Commission devrait également changer de nom et devenir l'exécutif européen, lequel serait composé d'un maximum de 15 membres, selon l'eurodéputé vert.
Nous voulons que la Commission soit composée par les dirigeants des différents partis politiques qui remportent les élections et qu'elle soit composée pour des raisons politiques. Ensuite, si vous n'aimez pas les politiques de la Commission, vous les éliminez lors des prochaines élections européennes et vous changez de gouvernement. C'est ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas changer de gouvernement et nous avons très peu de contrôle sur les personnes que les gouvernements nationaux envoient à Bruxelles.
En outre, le nouveau président de la Commission devrait être directement choisi par les citoyens européens, par le biais d'un système appelé Spitzenkandidat, un système que le Parlement européen a proposé dans une autre résolution récemment approuvée et selon lequel le poste est attribué au chef de file du parti européen arrivé en tête des élections au Parlement européen. En effet, en plus de revendiquer plus de prérogatives pour lui-même, le Parlement européen demande également le renforcement des instruments de participation citoyenne dans la prise de décision. Actuellement, l'instrument de démocratie participative le plus important est l'initiative citoyenne européenne. Avec 1 million de signatures provenant d'au moins 7 États membres différents, il est possible pour les citoyens européens de demander directement à la Commission européenne de légiférer sur une question spécifique.
La version originale de la résolution sur la réforme des traités incluait même l'idée d'un référendum européen sur les questions politiques de l'UE. Cependant, cette idée a été supprimée du texte final. Pour comprendre pourquoi, j'ai discuté dans un bar bruyant du Parlement européen avec une autre députée européenne favorable à la réforme des traités, la socialiste allemande Gabriele Bischoff, également signataire de la proposition. Son groupe soutenait cette idée au sein de l'Assemblée, mais a accepté un compromis en approuvant un paquet législatif qui n'y comprenait finalement pas ce référendum européen. Madame Bischoff, c'est donc une question très controversée.
There were people that were very strongly in favor of this.
Certaines personnes soutenaient vivement ce référendum. Mais j'ai aussi discuté de ces propositions dans mon groupe politique et certains États membres étaient particulièrement inquiets. Devrions-nous vraiment le faire? Et à quelle occasion? Etc. Mais en fin de compte, nous avons soutenu le compromis final parce que, vous savez comment c'est en Europe, vous devez accepter un paquet. Il y a toujours des choses que l'on aime beaucoup et d'autres que l'on pense pouvoir accepter dans un esprit de compromis.
But okay, in the spirit of compromise.
Avec ou sans référendum, l'objectif du Parlement est d'étendre les pouvoirs de l'UE. Dans leur résolution, les députés demandent que davantage de politiques, qui relèvent actuellement de la responsabilité des États membres, soient désormais gérées au niveau européen. Il s'agit notamment de la santé publique et de l'éducation, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, des titres et des qualifications.
La défense et les dépenses militaires seraient également concernées avec la mise en place d'une union de défense d'unités militaires sous commandement opérationnel de l'UE et l'achat en commun d'armes, une idée très proche de celle d'une armée européenne. Les députés sont parvenus à un compromis sur une union de défense basée sur l'achat en commun d'équipements militaires et la coordination des activités.
The European Union could...
Si nous faisions des achats en commun, l'Union européenne pourrait économiser plus de 100 milliards d'euros et nous pourrions investir cet argent dans d'autres domaines. Nous pensons donc qu'il s'agit d'une très bonne proposition et qu'il est tout à fait réaliste de la mettre en œuvre. Et cela améliorerait la sécurité de l'Europe, car la sécurité dans toutes ses dimensions, défense, cybersécurité, sécurité sociale, etc., est une préoccupation majeure de nos citoyens.
Pour le Parlement européen, la modification des traités fondateurs est déjà une urgence, mais elle sera essentielle lorsqu'il s'agira de procéder à de nouveaux élargissements de l'UE. Et ces élargissements sont imminents, puisque l'Ukraine et la Moldavie viennent d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'UE. Une Union européenne comptant plus d'États que les 27 actuels ne pourrait pas fonctionner sans modifier sa structure. Or, ce sont précisément les règles du jeu actuelles qui rendent leur modification si difficile. Il est théoriquement possible de réviser les traités, mais cela nécessite des procédures extrêmement complexes. La procédure choisie en l'espèce est la procédure de révision ordinaire, prévue à l'article 48, paragraphe 2 à 5 du traité sur l'Union européenne. La première étape consiste à convoquer une convention, une grande réunion extraordinaire de représentants des institutions européennes et des gouvernements et parlements des États membres.
C'est là que les problèmes commencent. Le Parlement européen demande la convocation de la Convention à partir de juin 2022, mais il est freiné par le fait que la décision relève du Conseil et doit être prise avec l'approbation de plus de la moitié des pays de l'UE. À l'époque, 13 États sur 27 avaient exprimé leur opposition dans une déclaration commune, plus la Hongrie, qui ne l'a pas signée, mais dont le gouvernement a exprimé son opposition à l'initiative. Madame la députée Bischoff, êtes-vous convaincue que cette convention pourra être organisée?
I have not a glass bowl, but I'm very convinced that a convention will come.
Je n'ai pas de boule de cristal, mais je suis convaincue qu'une convention verra le jour. Parce qu'il est également très clair que sans réforme, il n'y aura pas d'élargissement. Ce ne sera pas possible.
But I think it will not be a Christmas tree.
mais je pense qu'il ne s'agira pas d'un arbre de Noël. Il y aura plutôt, dans la Convention, des modifications ciblées du traité. Peut-être qu'il serait utile que les États membres se mettent d'accord à l'avance sur les domaines dans lesquels ils apporteront des changements. Mais ceux-ci sont essentiels pour que l'Union européenne existe à l'avenir et soit également capable de relever les défis géopolitiques et dans tous les domaines qui sont les nôtres.
Même si la Convention a été convoquée, elle ne serait en fait que la première étape d'un parcours semé d'embûches. Une fois adoptés, les amendements devront être soumis à une conférence intergouvernementale, une assemblée composée uniquement de membres des gouvernements nationaux.
Toute modification nécessiterait à nouveau l'accord de tous les pays, ce qui nous ramène au problème du veto dérogatoire que j'évoquais au début. L'unanimité est nécessaire même pour limiter les recours à l'unanimité. En d'autres termes, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. C'est tout pour aujourd'hui, mais je reviendrai bientôt avec d'autres nouvelles sur les thèmes de l'UE. Restez à l'écoute!